Leroux a parlé du prêtre et de la famille. Le père Alain de Riomont parlera du prêtre et de l'éducation. Ça, c'est tout ce que fait le prêtre. Mais pour voir à quel titre il fait des choses, on a besoin de comprendre ce qu'il est. Et la crise des dernières décennies a été beaucoup de se focaliser sur ce que les prêtres devaient faire ou pas faire, en regardant les choses d'une manière extérieure. Et si on regarde les choses d'une manière extérieure, on a la notion en usage depuis la séparation de l'Église et de l'État de ministre du culte. Et ça, c'est la définition que peuvent donner tous les droits constitutionnels en usage, qui ne saurait aller plus profond. Et le sacerdoce chrétien, lui, est incompréhensible si on l'envisage en fonction des notions de la société civile. Alors, remercions le bon Dieu de vivre après le vent de folie des années 60 et 70, qui justement, sous prétexte d'ouverture au monde, n'osait plus envisager le sacerdoce dans la seule lumière adéquate, qui est celle de la révélation. Après, on peut dire plein de choses sur ce qu'il y a à faire, sur les méthodes, l'organisation, tout ça. Donc, pour nous, ce soir, c'est à la lumière de la révélation, de la foi. En écartant, alors, parce que nous avons la foi, nous n'avons pas ces théories sécularisées, mais nous pouvons être imprégnés à notre façon aussi, chaque fois qu'on regarde les choses trop humainement dans le fonctionnement de l'Église. L'évêque approchant d'un préfet, le pape approchant d'un PDG, le prêtre approchant d'un député à l'Assemblée nationale. Parce qu'à droite comme à gauche, on peut avoir une vision qui n'est pas assez une vision de foi. Les chefs religieux rendent un culte, donnent des conseils spirituels. Et le prêtre, s'il était analogue à n'importe quel autre chef religieux sur le plan du culte, serait un druide. S'il était analogue à n'importe quel autre chef religieux sur le plan des conseils spirituels, ce serait un gourou. Et ben, les autres organisations religieuses ont bien des animateurs de la prière. La réforme a ses pasteurs, la synagogue a ses rabbins et l'islam a ses guides. Mais aucun ne se réclame d'un sacrement qui le consacre. Il change ce qu'il est. Donc c'est ontologique. Nous regardons le visage du prêtre dans les lieux où Dieu fait connaître ses mystères, qui sont l'Écriture et puis la tradition. Et nous suivons trois temps, comme trois temps de l'année liturgique. Il y a l'Avent, représenté par l'Ancien Testament, avec beaucoup de préfigurations, du sacerdoce au sens chrétien. Puis, après l'Avent, c'est l'incarnation et la rédemption. Donc là, c'est le sacerdoce du grand prêtre. Et puis, notre troisième temps, correspondant au temps après la Pentecôte, c'est le temps de l'Église où, après le grand prêtre, il y a les petits prêtres, dont votre serviteur. Nous nous promenons d'abord dans l'Ancien Testament, qui a fourni une première réalisation du sacerdoce. Dans l'Évangile, il n'y a pas le mot prêtre, et même dans aucun texte du Nouveau Testament, sauf un, qui est celui où on s'arrêtera après. Pour une raison très précise, parce que ce mot-là, hieros, désignait les prêtres de l'Ancienne Alliance, et aussi les ministres des cultes païens, en tout cas quelque chose qui est radicalement différent du sacerdoce au sens du sacerdoce de la Nouvelle Alliance de notre Seigneur et puis de nous ensuite. Au sens large, rien n'est plus ancien que la notion de sacerdoce. Elle est aussi ancienne que le sens religieux qui fait partie de la nature humaine, qui se préoccupe des relations avec Dieu et donc d'avoir des hommes spécialisés pour le culte. C'est pas un privilège du peuple élu. La Bible parle de prêtres païens. Dans l'histoire de Joseph, il y a les prêtres égyptiens. Dans l'histoire de Moïse, il y a un prêtre madianite. Puis apparaît le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire de la tribu de Lévi. qui n'est pas extrêmement nouveau par rapport aux prêtres païens. Comme eux, les prêtres hébreux sont chargés des cérémonies de culte dans le sanctuaire, ils transmettent les oracles divins, ils ont la responsabilité des observances. Le sacerdoce du Christ, lui, est tellement nouveau par rapport à ça que les évangiles n'utiliseront pas ce titre. Rabbi, maître, seigneur, fils de l'homme, fils de David, messie. Parce que l'Église était consciente d'une nouveauté si forte par rapport à cet avant qu'il n'était pas possible de l'exprimer en termes anciens. Il va falloir une réélaboration, un approfondissement, et le résultat sera le seul exposé développé sur le Christ, seul traité de christologie dans le Nouveau Testament. C'est ce sur quoi nous porterons le regard, qui est l'Épître aux Hébreux. Là, et là seulement, on parle du Christ prêtre. Et ce seul traité de christologie, c'est un traité sacerdotal, qui veut résumer la personne de notre Seigneur, essentiellement par cette fonction. Par rapport à cet avant, il y a pas mal de nouveautés. Et donc, regardons les contrastes. Premièrement, les prêtres de l'Ancien Testament sont totalement séparés pour Dieu. Point barre. Il n'y a pas de notion, en tout cas exprimée, de médiation. Dans l'Ecclésiastique, on parle d'Aaron avec beaucoup d'hyperbole. Dieu éleva Aaron, on décrit ses habits somptueux. Seigneur, quand il institue le sacerdoce de ceux qui vont participer au sien, c'est le jour où il se met à se dépouiller de ses vêtements, à laver les pieds des disciples. Alors, il met en œuvre sa relation à Dieu. Bien sûr, c'est à Dieu qu'est offert le sacrifice, mais pour les hommes. Et c'est aux hommes que notre Seigneur donne son corps et son sang. Donc, ce n'est pas unilatéral. Dans l'Exode, on dit toujours le prêtre est établi pour Dieu, et dans l'Épître aux Hébreux, tout grand prêtre est établi pour les hommes dans les relations avec Dieu. Donc il y a c'est bilatéral, dimension verticale, dimension pour les hommes. Les prêtres anciens ne sont pas médiateurs d'alliance. Dans l'Épître aux Hébreux, l'alliance, c'est là qu'on trouve le plus souvent le mot alliance. Donc l'idée de médiation. Deuxième nouveauté, une nouvelle idée de sanctification. Le prêtre de l'Ancienne Alliance était absolument séparé par tout un système assez élaboré. Déjà, il y avait des gradins, le peuple Israël à part. Dans Israël, une des 12 tribus, celle de Lévi. Dans cette tribu, une famille. Dans cette famille, le grand prêtre. Et puis, quand ils devaient accomplir leurs fonctions, quand ils étaient consacrés, des rites étaient extrêmement minutieux pour qu'ils soient mis à part absolument de tout contact avec les choses du monde. Bain rituel, onction pour l'imprégner de sainteté, les vêtements et de multiples immolations d'animaux. Alors ils ne pouvaient pas approcher du corps d'un défunt, même de son père ou de sa mère. Ça aurait été une impureté inconciliable avec l'exercice du culte. Et notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait des morts? Il va justement les toucher pour les ressusciter. Et il s'est fait semblable en tout aux pécheurs, dit saint Paul. Donc il y a, bien sûr, il est consacré à Dieu, la fonction sacerdotale de la nouvelle alliance, mais il y a cette solidarité avec les pécheurs. Il fait partie. Il se met dans notre peau, ce qu'il n'y a pas dans l'Ancien. Nouveau but de l'oblation des sacrifices. Il s'agissait, dans l'avant, de considérer les sacrifices comme des cadeaux offerts à Dieu, simplement pour attirer ses faveurs. ce que nous ne rejetons pas comme faux, mais comme insuffisant. Le but de ce que nous offrons à Dieu, ce n'est pas de le changer lui, mais c'est de changer, d'être transformé nous-mêmes. C'est pas le bon Dieu n'a pas besoin d'objets. Mais c'était déjà, les prophètes insistaient là-dessus, disant que l'oblation extérieure n'avait pas de valeur si le cœur n'y était pas. Et quelques rappels dans le Miserere, que le sang des boucs et des taureaux, vais-je le boire ? Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur contrit et humilié. Donc il y avait déjà un petit peu ça dans les rappels de l'Ancien Testament. Mais tous ces sacrifices-là n'étaient pas capables de rendre, de purifier les consciences. Ils appelaient la grâce, mais ils ne la produisaient pas. Tandis que l'oblation du Christ, elle, a une pleine valeur, parce que c'est lui-même qui s'offre, et pas simplement quelque chose d'extérieur. Ainsi, nouveau contenu de l'oblation. Le grand prêtre offrait quelque chose qui n'était pas lui, il offrait le sang des animaux. Il ne s'offrait pas lui-même parce que un simple homme n'est pas digne d'être agréé de Dieu. Donc c'était des rites extérieurs qui avaient de la valeur dans la mesure où elles annonçaient le sacrifice que le Christ allait faire. Il est entré dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de taureau, mais avec son propre sang. Nouveau moyen d'effectuer l'oblation. Qu'est-ce qui faisait monter la victime jusqu'au trône de Dieu ? C'était un feu. C'était même un feu qui était entretenu continuellement, parce que ce n'était pas un feu produit par les hommes, c'est celui qui demeurait au sanctuaire. Dans cette idée du feu qu'on voit mise en scène dans beaucoup de sacrifices de l'Ancien Testament, il y a le fait que pour que Dieu agrée quelque chose, il faut que ce soit lui-même qui vienne s'en saisir. Donc c'est déjà une intuition de quelque chose qui, dans le Nouveau Testament, va arriver à son achèvement. Qu'est-ce que le sacrifice, alors quand on dit « je fais des sacrifices », on voit le côté pénible, le revers de la médaille, mais en réalité, il s'agit de rendre sacré quelque chose, de le sanctifier, une réalité, de le faire passer dans le domaine de Dieu. Et qu'est-ce qui opère ça? Qu'est-ce qui sanctifie quelque chose? C'est un feu, c'est l'Esprit Saint. Et le feu de l'Ancien Testament en était la figure. Et juste avant, au moment de l'offertoire, dans l'ancien rite, Veni Sanctificator, venez Esprit Saint et sanctifiez ces offrandes. C'est le feu de Dieu qui vient, c'est pas une combustion physique, mais c'est l'Esprit Saint qui vient nous mettre en état d'offrande. Et l'Épître aux Hébreux le dit, le Christ s'est offert à Dieu dans l'Esprit éternel. Nouveau dynamisme. Maintenant, par le sacrifice du nouveau sacerdoce, par la solidarité qu'il est venu instaurer avec les pécheurs, le Christ qui fait le pont entre et qui unit dimension verticale et horizontale, fait de la notion de sacrifice non pas simplement quelque chose qui opère des séparations, mais plutôt quelque chose qui réconcilie toutes choses, un dynamisme de communion. L'ancien sacerdoce instaurait des séparations, le nouveau sacerdoce est celui qui unit les choses d'en bas, les choses d'en haut. Et dernière nouveauté qu'on peut discerner, c'est que le nouveau sacerdoce est ouvert à la participation. Dans l'ancien, il y avait uniquement le grand prêtre qui pouvait, une seule fois chaque année, pénétrer dans le Saint des Saints et ne pouvait être suivi par absolument personne. Il était même interdit de se trouver alors dans la partie antérieure du sanctuaire, le Saint. Le Christ, au contraire, son sacerdoce, est ouvert à la participation, c'est-à-dire il appelle les hommes à offrir avec lui conjointement leur propre vie en sacrifice vivant, avec deux participations différentes, la mienne et la vôtre. Et ça, on y viendra après. Voilà les contrastes que fait apparaître ce temps de l'Avent du sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Voici le temps de l'incarnation. Juste avant de quitter ce monde, nous écoutons le grand discours à la scène de notre Seigneur. On l'appelle justement la prière sacerdotale. C'est dans le chapitre 17. Les exégètes ont repéré que ce texte décalquait le récit du rituel du jour des expiations, Yom Kippour, jour des pardons, où le grand prêtre pénétrait dans le sanctuaire. C'est dans le Lévitique, chapitre 16, parallèle donc à Saint Jean, chapitre 17. Le grand prêtre, ce jour-là, unique, ce jour unique, prononçait le nom de Dieu, donc le faisait connaître. Il aspergeait le propitiatoire pour lui et puis pour les prêtres, avec le sang d'un taureau qui ressort, l'immolation d'un bouc, et avec le sang d'un bouc, il asperge de nouveau le propitiatoire pour le peuple. Et puis il entre dans le sanctuaire. Ainsi, le Christ, dans ce chapitre 17 de Saint Jean, va entrer dans le sanctuaire céleste, dont il va franchir la porte au moment de sa mort, où le voile du temple, justement au même moment, va être déchiré. Il va nous précéder dans le sanctuaire éternel. Et dans sa prière sacerdotale, on repère qu'il prie d'abord pour lui-même, comme le grand prêtre faisant la première aspersion, puis pour ses disciples, puis pour tout le peuple. Donc il reproduit, il est le grand prêtre en vérité, dont le grand prêtre de l'Ancien Testament était seulement une figure. Lévitique chapitre 16, Saint Jean chapitre 17, et puis l'Épître aux Hébreux, c'est elle qui met en évidence cette nouveauté du sacerdoce du Christ, retourné au Père, comme le grand prêtre entrant dans le sanctuaire éternel. J'oubliais de dire, oui, l'autre point commun, il y a une phrase, Jésus dit « J'ai manifesté ton nom aux hommes », donc il reprend le fait que le grand prêtre, ce jour-là, prononçait le nom sacré. Alors notre Épître aux Hébreux reprend les mêmes éléments de ce schéma du Lévitique et de Saint Jean chapitre 17, l'effusion du sang et le transfert dans le sanctuaire céleste. Épître aux Hébreux chapitre 1 et 2, bon, qu'elle soit pas de Saint Paul ne change rien au fait qu'elle soit inspirée. Elle est peut-être de Saint Luc, elle est peut-être de Sylvain, en tout cas elle est paulinienne. Le Christ est prêtre. À partir de quand est-il prêtre? C'est pas quelque chose qu'il est de toute éternité. Parce que être prêtre, c'est être médiateur en tenant les deux bouts de la chaîne, justement, cette solidarité. Alors il est prêtre à partir du moment précis de l'incarnation. Parce que tout grand prêtre doit être pris du milieu des hommes, dit l'Épître aux Hébreux. Donc à un moment, Dieu a fait de son fils un prêtre quand il lui a donné un corps humain. À partir de là, il fait corps avec ses frères pour les sauver et les entraîner. C'est plus que intermédiaire, médiateur. Médiateur touche, tient les deux bouts de la chaîne. Il a dû devenir en tout semblable à ses frères afin de devenir, dans leur rapport avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux. il est descendu au plus bas. Ayant dit cela, l'Épître aux Hébreux se focalise sur le moment central, l'acte de son sacrifice, qui s'est opéré une fois pour toutes et qui en cela est supérieur à toutes les médiations de l'Ancien Testament, parce que il est le seul efficace. L'homme à moitié mort qui gisait sur le bord du chemin voit près de lui passer inefficacement le prêtre et puis inefficacement le lévite. Alors les pères méditent cette parabole du bon samaritain en disant que ça correspond au temps de la loi, la Torah et des prophètes, donc tout l'Ancien Testament, ce sacerdoce-là était inefficace, et voilà que le bon samaritain, lui, va se pencher. Pourquoi ? Parce qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Nous le chantons quand nous avons les vêpres. Le psaume Dixit Dominus, les vêpres du dimanche. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Alors là, c'est une allusion à un seul verset de la Genèse qui nous montre ce personnage mystérieux et Saint Paul, enfin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, prend tout un chapitre pour le développer. Abraham rencontre ce personnage mystérieux, roi de Salem, qui offre du pain et du vin, et Abraham lui offre la dîme. Ça veut dire qu'il lui est inférieur, en tout cas. Ainsi, le Christ n'est pas prêtre selon l'ordre de la tribu de Lévi, il n'est pas un lévite, il n'est pas prêtre de l'ancienne alliance, il est, comme Melchizedek, celui qui vient d'ailleurs. Sans ascendance ni généalogie, dit saint Paul. Le Christ est l'être comme le Samaritain, il descendait de Jérusalem à Jéricho, il est descendu d'ailleurs. Un petit peu comme le petit prince qui se trouve là brusquement, il vient d'un au-delà, alors que nous avions notre moteur cassé. Et Abraham, qui est père de toutes les tribus, lui offre le sacrifice à lui. Donc le sacerdoce lévitique est inférieur au sacerdoce que le Christ réalise. Les lévites devaient renouveler le Christ, qui est de la tribu de Juda, mais donc il est d'une autre catégorie, son sacrifice a une efficacité définitive. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple, toujours la structure en plusieurs parties de Yom Kippour. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et cette efficacité, il l'applique par les participations qu'il a instaurées à son sacerdoce, et nous sommes maintenant dans le troisième temps liturgique, le temps de l'Église après la Pentecôte. Le Christ continue son activité sacerdotale, parce qu'au ciel il est prêtre, au sens où il continue d'être en état d'offrande, de présenter au Père l'unique instant de son sacrifice. Et c'est ici que nous avons les deux participations différentes, où il y a eu pas mal de confusion en théologie. Sacerdoce commun des fidèles et sacerdoce ministériel des prêtres. Alors, ce n'est pas développé dans l'Épître aux Hébreux, mais quand je disais qu'il n'y a pas le mot prêtre ailleurs que dans l'Épître aux Hébreux, c'est vrai, sauf deux mots. Et ces deux mots, c'est à propos, non pas des prêtres, des ministres ordonnés, mais c'est à propos du sacerdoce baptismal des fidèles. Donc, même si la notion a donné lieu à des confusions, elle est précieuse. C'est dans 1er Épître de Saint-Pierre, vous êtes un peuple sacerdotal. Donc, c'est vous. Et puis, Apocalypse, au début, 1er chapitre 1, verset 5. Lui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. cléricalisme. Le cléricalisme, c'est quand on fausse les rapports de l'un et l'autre sacerdoce, entre guillemets. C'est quand on fait que de manière absolue, les laïcs sont au service des prêtres. Alors que les laïcs rendent service aux prêtres, c'est précieux comme coopération et pour les porter et pour les soutenir. Mais si on prend les choses du point de vue théologique, c'est le sacerdoce ministériel qui est au service du sacerdoce commun. Le sacerdoce commun consiste à s'offrir en hostie vivante à Dieu. Et pour que tous les membres de l'Église puissent s'offrir en hostie vivante à Dieu, il faut, à leur service, leur lavant les pieds, des ministres, il faut les prêtres. Donc c'est le sacerdoce ministériel qui est ordonné au sacerdoce des fidèles. Alors ça ne veut pas dire que les fidèles ont le pouvoir, évidemment, mais au sens théologique, c'est comme ça que ça se situe, et c'est un service que de gouverner, et c'est un service que de rassembler les oblations de tout le peuple pour les lever vers Dieu. Le manipule, manipulum, veut dire gerbe. Alors, il y a toujours plusieurs origines au symbole liturgique. C'était probablement la serviette dont on pouvait s'essuyer pendant les longues prédications. Mais c'est aussi le prêtre, en tout cas la prière que nous récitons en le mettant, la gerbe des pleurs et de la douleur. C'est-à-dire on ramasse tous vos sacrifices, toutes vos épreuves pour les plonger dans le calice, dans l'offrande du Christ pour qu'elles portent leurs fruits et leur fécondité. Et c'est un service. Ayant positionné la relation de ces deux sacerdoces, on peut décliner quel est le service que rendent les prêtres ordonnés, parce que cette année est quand même pour eux, ici et là, on a vu que la crise n'est pas finie, puisque même des publications ou des prêtres ont cru pouvoir interpréter l'idée de l'année sacerdotale en disant ben, on prie pas seulement pour les prêtres, mais on prie aussi pour les fidèles, puisqu'ils sont prêtres aussi. Ben non, le pape a parlé d'une année sacerdotale au sens des ministres ordonnés. C'est évidemment pour que tous soient saints, mais l'objet est celui-là. Du point de vue de la tradition, en fait, je pense que ces notions de l'écriture suffisent. La tradition, ensuite, a explicité cela à l'occasion des négations protestantes. Le Concile de Trente a explicité la notion de caractère, qui est un sceau indélébile. Et puis l'enseignement de l'Église a explicité les trois fonctions, c'est-à-dire que le prêtre reçoit une consécration qui le fait participer aux trois fonctions du Christ et lui permet de réaliser la triple mission donnée à l'ascension: aller enseigner toutes les nations, baptisez-les et enseignez-leur à faire ce que j'ai commandé. Enseigner, sanctifier, c'est les sacrements, et gouverner. Ce sont ces trois choses qui soudent l'unité de l'Église. On retrouve ça aussi dans la trilogie, Saint Paul qui dit un seul Seigneur, c'est l'aspect gouvernement, une seule foi, c'est l'enseignement de la vérité, et un seul baptême, c'est l'unité de vie sacramentelle. Donc le Christ a noté l'ordre aussi d'ailleurs: enseignez toutes les nations et baptisez-les. Vous noterez que le sacrement n'est pas la première chose. Et c'est vrai que le baptême suppose la foi. Le diacre Philippe, quand il fait du char stop, monte à côté de l'eunuque de la reine Candace et commence à lui expliquer les Écritures. Et après cela, il demande le baptême. Donc l'évangélisation commence par l'enseignement. Et ensuite, les sacrements sont un couronnement de cette union. Aujourd'hui, on a un petit peu ce paradoxe de post-chrétienté, personnes qui reçoivent le baptême ou le mariage sans avoir la foi. Mais ça souligne aussi que pour évangéliser, il y a besoin que des fidèles soient associés au travail des prêtres. C'est-à-dire, c'est pas simplement à nous d'annoncer la vérité. Et donc là, le sacerdoce commun a une fonction, a une mission de d'être prophète aussi, par la confirmation, pour enseigner la vérité, pour qu'ensuite les âmes puissent être conduites au sacrement. On peut finir sur la notion de vocation. Souvent, on a un peu quelque chose de flou en disant bon, tout le monde est appelé à être saint, et certains c'est en étant laïque, et puis d'autres c'est en étant consacré à Dieu. Et on met dans le même sac religieux et prêtre. Alors en fait, il y a trois états. Le baptisé, c'est le sacerdoce commun. Le prêtre. Et puis les consacrés. Alors évidemment, parmi les consacrés, il y a ceux qui sont religieux et prêtres. Mais je voudrais souligner que la vie religieuse n'est pas de la même ligne que la vocation sacerdotale en tant que telle. La vie religieuse, c'est la radicalisation du sacerdoce commun. C'est-à-dire, on pousse au maximum la logique du baptême par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, pour indiquer à tous les baptisés que pour être saint, il faut être détaché des biens matériels, détaché des biens affectifs et détaché de la gérance de sa propre vie. Tandis que le sacrement de l'ordre n'est pas dans la même ligne, c'est pas pour pousser au maximum la logique du baptême, c'est pas pour soi-même, c'est pas pour devenir saint, c'est pour les autres. C'est pour sanctifier les autres. C'est une fonction, avec beaucoup de guillemets, un métier, qui, par redondance, évidemment, appelle très fortement à ce que le prêtre ait un état de vie qui corresponde à ça, et qu'il est donc, et c'est ça, c'était Benoît XVI, quand il nous a donné le modèle du curé d'Ars au début de l'année sacerdotale, a souligné son esprit de pauvreté, son esprit de chasteté, et son esprit... d'obéissance, mais c'est pas par là que se définit la notion de sacerdoce. Vous voyez la différence ? Est-ce que le religieux se définit par son engagement à la pauvreté, la chasteté, l'obéissance ? Tandis que si je suis... Bon, chasteté c'est différent, le célibat est un point spécifique, mais si je ne suis pas pauvre, ça ne m'empêchera pas d'être prêtre. C'est pas bien, parce que ça ne va pas faire signe aux autres, ça ne va pas beaucoup évoquer les richesses du royaume des cieux, mais... Voilà. Et si je ne suis pas obéissant, ça ne va pas non plus être exemplaire, ça ne va pas m'empêcher d'être prêtre. Est-ce que le religieux, c'est contraire à son état ? Donc sacerdoce, ce n'est pas au sens strict un état de vie. C'est un sacrement, une fonction sainte qui appelle une façon de vivre, ce que Benoît XVI appelle la sainteté subjective. Et si elle correspond à la sainteté objective du ministère, c'est-à-dire le fait que ce ministère transmet la grâce, alors la fécondité en sera décuplée. Mais même si je suis catastrophique du point de vue de la vie morale, je reste prêtre. Et pour que vous sachiez qu'on compte sur vous, bon, l'abbé Leroux parlait du prêtre qui apporte quelque chose aux familles, père de Riaumont, prêtre qui éduque. Je voudrais vous dire que, dans l'autre sens, les prêtres sont des bons prêtres dans la mesure où ils sont portés par le regard qu'on porte sur eux. Et c'est parce que la société a perdu la considération de ce que c'est que le prêtre, c'est ça qui a fait flancher beaucoup d'entre eux. Mais... vous avez une mission particulière, c'est de demander au prêtre ce qui est exactement de son sacerdoce. Il ne faut pas lui demander des choses qui sont à côté, c'est-à-dire de savoir le fin mot de tout ce qu'il faut faire dans le registre politique, dans le gouvernement du détail, d'organisation de votre vie familiale ou professionnelle. Ça, ce serait lui demander d'être un gourou, et ça lui donnera la tentation de l'être. Il faut qu'il sache dire non dans ces cas-là, dire c'est pas mon registre, ou ça me dépasse, ou je sais pas, ou c'est votre conscience, etc. Il faut pas lui demander des choses simplement humaines, bien que, bien sûr, il y a tout un aspect d'affection humaine, mais il il n'a pas grâce d'État pour ça, et ce serait fausser les choses que demander au prêtre simplement de l'amitié ou de l'affection. Il ne faut pas lui demander non plus simplement des conseils pour l'équilibre psychologique, et ça c'est une tendance. On parle beaucoup de guérison des blessures aujourd'hui en confondant un petit peu le psychologique et le spirituel. Bien sûr, quand la grâce investit une personnalité, elle l'aide aussi à trouver un vrai équilibre humain, mais ce n'est pas son objet principal. Son objet principal, c'est la rédemption. De même qu'un bébé fait monter le lait en tétant, de même, si la fonction crée l'organe, c'est-à-dire si on demande au prêtre d'être prêtre, il le sera au sens le plus plein du terme. Qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est plus grand de réaliser le sacerdoce baptismal ou de vivre du sacerdoce ordonné? La question équivaut à dire, est-ce qu'il est plus grand d'être Marie ou d'être Pierre? Est-ce que les grandeurs de hiérarchie sont plus grandes que les grandeurs de sainteté? Ça, c'est l'expression du cardinal Journet. Eh bien non, les grandeurs de hiérarchie sont au service des grandeurs de sainteté. Le ministère de... On voit dans l'évangile, Saint-Pierre est pape, mais ça passera. Tandis que l'attitude mariale, la sainteté, ça ne passera pas. Et Saint Jean réunit en lui, Saint Jean est prêtre, mais Saint Jean est celui qui a reçu Marie chez elle. Un petit quelque chose du Monseigneur Léonard. Quand Pierre, au nom de sa garde universelle des brebis, interroge Jésus sur le destin de Jean, et lui, Seigneur, Jésus lui répond, « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Pierre, tout pape qu'il est, doit s'incliner devant le mystère plus grand de l'amour et accepter que celui-ci est plus définitif que le ministère hiérarchique. On a parlé du carré apostolique, Pierre, Jean, Jacques et enfin Paul, dessinant quatre accentuations différentes du ministère. Jacques, la tradition et la loi, Paul, la liberté dans l'Esprit Saint, Saint-Pierre, la charge pastorale hiérarchique, Saint-Jean, l'amour qui demeure à jamais. Mais toute cette variété complémentaire du ministère apostolique demeure englobée dans la dimension mariale plus décisive de l'amour et de la sainteté. Sacerdoce commun, votre sacerdoce, votre vocation est quelque chose de marial, et c'est pour ça que le prêtre est masculin. C'est parce qu'il se tient dans l'attitude du Christ qui est l'époux, et les âmes sont épouses. Et c'est pour ça que du point de vue géographique aussi, il y a le sanctuaire masculin et il y a la nef qui est féminine. Et c'est pour ça qu'il est inopportun qu'il y ait une présence féminine dans le sanctuaire. Et c'est pour ça qu'il est impossible que l'Église donne le sacrement de l'ordre aux femmes. C'est pas parce que ce serait injuste si on regardait ça comme un pouvoir, mais c'est pas un pouvoir. C'est inférieur au sens de la hiérarchie de sainteté. Et c'est pour ça qu'il est non pas impossible, mais beaucoup moins convenable que le prêtre soit marié, parce qu'il va moins représenter le Christ époux tout donné aux âmes. Alors il y a des raisons de convenance, de disponibilité. Les prêtres en Orient qui sont mariés ont moins envie de se confier à quelqu'un qui est marié, mais plus profondément c'est une question de symbolique, de représenter le Christ unique époux tout donné aux âmes. C'est un point ignoré, c'est que le célibat sacerdotal et d'origine apostolique. Ce n'est pas dès le début qu'il y a eu en Orient des prêtres mariés. C'est dès le début les apôtres ont quitté leurs femmes. Dès le début, les prêtres étaient tous célibataires. Et au bout de 3 siècles, je crois, ou 4, je ne sais plus, un concile a émis cette tolérance qu'en Orient, les prêtres du second ordre, c'est-à-dire non pas les évêques qui sont prêtres au sens plein, mais des prêtres puissent être mariés. Donc on ne peut pas arguer pour cette tolérance d'une origine apostolique. Et c'est pour le prêtre une très grande joie de pouvoir être ainsi tout donné aux âmes et de voir se réaliser le mystère nuptial par son intermédiaire, le Christ qui veut être l'époux des âmes. Nous comptons sur vous et comme méditation finale, pouvons-nous lever. Je vais lire quelques extraits de ce que Benoît XVI avait dit au début de l'année sacerdotale. À genoux, puisque ce sera sous forme de prière. Homélie lors de la solennité du Sacré-Cœur, à l'occasion de l'ouverture de l'année sacerdotale. Le cœur de Dieu frémit de compassion. L'Église offre à notre contemplation ce mystère du cœur d'un Dieu qui s'émeut et reverse tout son amour sur l'humanité. Son cœur divin appelle notre cœur. Il nous invite à sortir de nous-mêmes, à abandonner nos certitudes humaines pour placer notre confiance en lui, et suivant son exemple, à faire de nous-mêmes un don d'amour sans réserve. S'il est vrai que l'invitation de Jésus à demeurer dans son amour s'adresse à chaque baptisé, cette invitation retentit avec une plus grande force pour les prêtres. Il me vient immédiatement à l'esprit une belle et émouvante affirmation. Le sacerdoce est l'amour du cœur de Jésus, disait le curé d'Ars. Comment ne pas rappeler avec émotion que c'est directement de ce cœur qu'a jailli le don du ministère sacerdotal? Comment oublier que nous, prêtres, sommes consacrés pour servir humblement et avec autorité le sacerdoce commun des fidèles. Notre mission demande une pleine fidélité au Christ et une union incessante avec lui, c'est-à-dire qu'il exige que nous tendions constamment à la sainteté comme l'a fait Saint Jean-Marie Vianney. L'Église a besoin de prêtres saints, de ministres qui aident les fidèles à faire l'expérience de l'amour miséricordieux du Seigneur et qui en soient des témoins convaincus. Nous demandons au Seigneur qu'il enflamme le cœur de chaque prêtre de cette charité pastorale, capable d'assimiler son moi personnel à celui de Jésus prêtre, de manière à pouvoir l'imiter dans l'autodonation la plus complète. Que la Vierge Mère nous obtienne cette grâce, elle dont nous contemplons avec une foi vive le cœur immaculé. Le saint curé d'Ars nourrissait à son égard une dévotion filiale, si bien qu'en 1836, en avance sur la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, il avait déjà consacré sa paroisse à Marie conçue sans péché. Et il garda l'habitude de renouveler souvent cette offrande de la paroisse à la Sainte Vierge en enseignant aux fidèles qu'il suffit de s'adresser à elle pour être exaucé, pour la simple raison qu'elle désire surtout nous voir heureux.